Toi, tu as 37 ans.
Oui.
Tu es marié.
Oui.
Tu as un enfant.
Oui.
J'aimerais bien comprendre, pas forcément toute l'histoire, mais juste le contexte dans lequel tu as grandi.
Ok. J'ai grandi dans une famille équilibrée, les parents ensemble, un petit frère de 2 ans de moins que moi, beaucoup plus geek et moi beaucoup à l'extérieur, dans une cité à Nanterre, au Pablo Picasso, ces belles tours bleues derrière la Défense. Et donc du coup, un contexte plutôt challengeant, on va dire, que je me suis confronté à la rue assez vite pour comprendre ses limites et comprendre que finalement, tant que t'es pas devant le juge, tout va bien. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des petits soucis sujets qui m'ont fait rebondir à trouver des solutions. J'ai monté un magasin qui s'est transformé en belle entreprise, qui s'appelait Antiradar. J'ai évolué derrière chez une grande boîte que vous connaissez qui est Coyote, etc. etc. On va en parler après. Mais le contexte est plutôt équilibré, philosophique, beaucoup de questions autour de moi, dans ma famille. Ils ne comprenaient pas pourquoi je partais en cacahuète comme ça et que je faisais, que j'allais titiller et tester les limites. Et puis j'étais un vrai leader, donc dans la délinquance, j'avais du monde derrière moi et ça me plaisait.
Bon, en tout cas, tu t'es pas perdu.
Non.
T'aurais pu, t'es passé pas loin, j'imagine. un petit peu.
Ouais.
Une certaine délinquance cadrée.
Ouais.
Mais t'as dû garder quelques éléments de personnalité, d'anticonformisme, qui, je suis sûr, l'échange qu'on va avoir va le laisser paraître. Nanterre, Antiradar. T'as oublié une étape liée à la musique.
Parce que ça fait partie. Ouais, c'est vrai, ça fait partie de moi et j'en fais.
Tu l'as jamais quitté.
Ouais, non, mais, ouais, c'est ça.
Mais t'as failli en faire ton métier quand même,
ouais,
de la musique, ce qui est pas anodin. Et t'as failli percer ou tu as percé, je sais pas. Selon certains, t'as percé.
Ouais.
Pour d'autres, t'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais raconte-moi cette parenthèse musique.
Yes, bah la parenthèse musique, c'est que depuis que j'ai 8-10 ans, j'écoute à fond Michael Jackson et tout un tas de choses. Dès que j'ai eu justement 10 ans, ma mère m'a offert une platine vinyle. J'ai commencé à mixer sur du Playa de la clinique, tu vois, c'est à l'ancienne. Et ensuite, bah en fait, j'ai rencontré Dame. On s'est mis vachement à l'électro.
Damien, qui est ton associé de toujours.
Ouais. Damien Mulliem, qui est mon meilleur ami et mon associé. Et on s'est mis à faire de la musique électronique. Une fois que j'avais enregistré les EP de tout mon quartier en rap, et j'en avais ma dose. Donc du coup, je me suis mis à être inspiré à mort par Daft Punk, Thomas Bangalter et compagnie. Et donc, on s'est mis minimal électro à l'époque. Et je bossais en radio. J'étais chez Fun, j'étais stagiaire du coup un jour j'entends mais ils font chier ces Français, ils font de la musique électronique mais à chaque fois ils me font des paroles en anglais et moi j'ai le CSA qui veut 21% de quota français à l'antenne. Donc celui qui va faire une musique électro et qui va mettre juste un refrain en français, ça va être une tuerie. Du coup on enchaîne, moi je pars de là en mode oula, attends c'est intéressant, il y a une opportunité là tu vois. On va en boîte, à l'époque c'était le Red Light, on prend une bouteille d'Absolute et puis on voit à côté de nous un peu de jeunesse bourge parisienne. Et en rentrant au studio la nuit, on était avec une copine qui avait une voix hyper jazzy et vraiment sympa. Et là, on commence à écrire un couplet. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle pas anglais. Et du coup, elle commence à triper dessus. Nous, on fait un petit bed, un petit son, un petit truc. On fait les caisses et tout. Et ça commence à tourner, tu vois. Et du coup, bah, le lendemain, je le présente à Fun Radio et je dis, regarde ce qu'on a fait. Et du coup, il dit, mais attends, c'est trop bien ce truc. On va le mettre sur un autre bed un peu plus groovy parce que c'est un peu trop électro. On va l'agencer et de ça. Et c'est devenu Disco Beach. C'est beau la bourgeoisie.
Impressionnant.
Ouais.
Et ça t'a pas donné envie d'y rester dans cet univers-là ?
Non.
Parce qu'une fois que t'as fait ça, t'avais le carnet d'adresse, tu comprenais, t'avais déjà un premier succès, qui accessoirement t'a fait gagner quand même pas mal d'argent, jeune.
Oui.
On n'a pas envie d'y rester dans cet univers-là quand on a touché à ça ?
C'était le moment où je voulais me construire, devenir un adulte. Et ce monde de la musique, j'y étais depuis quelques années pour mixer en soirée, au Rex, etc. Et j'étais pas fan du milieu alcool, drogue, nuit. Et je voulais vraiment bosser la journée et être quelqu'un d'équilibré. Et en fait, de faire ce son et de voir ce que ça générait comme revenu, il y a très très vite les très grosses maisons de disques qui sont venues à côté. Et donc du coup, bah, il y a eu un départ de conflit avec Sony Music, etc. Donc on s'est recroquevillé avec Dame en disant « Écoute, nous l'argent, on s'en fout. Les intérêts, on s'en fout. On leur vend leur part là, de production et d'auteur. Et c'est pas grave. » Et donc du coup, on a vendu. Ça y a un autre nom d'ailleurs, c'est Kylian Mash, mon ami Rémi Fischer, qui a repris le nom avec Laurent Conrad et qui l'ont utilisé pendant longtemps et qui, ça a généré un vrai tube de l'été et plusieurs millions d'euros.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais.
Disco Beach, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, vous le trouverez assez rapidement.
Et moi, je trouve pas que c'est une réussite, parce que du coup, c'est pas trop l'image qu'on voulait véhiculer de 22, donc c'est pour ça qu'on a enlevé notre nom.
Oui, c'était là, trop t'es parti dans une mass market commerciale.
Bah, c'est ça, alors que nous, on était plus underground, tu vois.
Deep, ouais. Presque.
Les vrais, quoi, tu vois.
Bon, et ben écoute, Canon, et comment t'arrives? Parce que Anti-Radar, ça va être un point de départ d'une vie plus équilibrée, plus normale, plus corporate aussi.
Enfin, c'était quoi pas.
Ouais, ok. Et comment tu arrives à ce sujet et à monter ton
Anti-Radar,
ton fonds de commerce comme ça?
Je suis en bagnole, j'ai mon permis depuis 4 jours. Je me suis acheté une Citroën Saxo 1,5 litre diesel. Je bombarde sur les quais à Bougival parce que je vais à mon émission de radio libre. C'était Yveline Radio à l'époque. Et donc, du coup, je bombarde et je me fais arrêter par la police. Et le mec me dit 99 au lieu de 50. En plus, t'es en jeune permis. Mais là, tu repars à pied, mec. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Je viens de l'avoir, le permis. Tu peux pas faire ça.
Tout ça pour ça.
Bah ouais, non, pas ça. Et puis en plus, moi, le permis, enfin...
C'était la liberté, t'étais en banlieue, tu pouvais pas faire ça.
Et on en a pas parlé, mais je fais de la moto depuis que je suis tout petit, de la motocross, de la moto de piste, j'adore la bagnole. Donc,
mais t'aurais pu percer aussi en moto, je crois, d'ailleurs.
Ouais, bah il y a eu des championnats de France et tout ça. Mais ça, je pense que, après, c'est un choix, tu vois. C'est comme la radio, tu te dis, bon, bah c'est bien d'être animateur radio ou c'est bien d'être pilote de moto, mais ça va pas beaucoup changer les lignes de l'humanité, tu vois. Donc du coup, je me suis mis à des défis.
Mais t'as quand même un côté assez impressionnant d'aller au fond des choses, mais en mode, quand tu fais de la moto, tu fais les championnats de France, quand tu fais de la musique, même dans ton garage, ça devient un tube, on verra ce que tu fais avec l'IA, mais t'es flippant.
Mais bah,
on en revient sur la partie anti-radar. T'as perdu ton permis à ce moment-là?
Ouais, ben non, parce que le mec, il me dit, bon, bah, y a la queue là, l'OPJ, moi je viens de commencer, il me dit, donc écoute, je te réduis, moi je peux faire les amendes à 40 km/h, donc je me barre avec mon amende où je perds 4 points et un stage obligatoire à l'époque, quand même. Je fais mon émission
de
radio libre.
C'est pas loin de la cata, quand même.
Ouais, pas loin de la cata. Mon émission de radio libre, du coup, je prends le mort, là, ça m'énerve. Et donc, je convoque les fabricants d'avertisseurs de radar et de détecteurs de radar. Je fais ma petite émission dans les Yvelines.
Ah, ok, pour te faire ton réseau et pour essayer de...
En fait, au début, je savais pas que je voulais faire ça. Mais quand j'ai fait cette radio libre le soir et que j'ai eu Joël Belaïch, l'importateur de Inforad à l'époque, c'était des gros carrés que tu remettais à jour sur ton ordi, que j'ai eu Loïc, je sais plus comment, qui faisait GPS Prevent, donc une autre application. Et je les écoute et je me dis, mais en fait, ça, c'est en train d'arriver. Tu sais, moi, j'ai la culture d'être à droite dans la bagnole devant quand j'avais 8 ans ou 10 ans et que mon papa me disait, bon, ben, William, je bombarde, toi, tu regardes sous les ponts. Et dès que tu vois un truc bizarre sous un pont, tu me dis freine et je freine. Et donc, on avait cette culture-là. Donc, anti-radar, moi, ça me parlait. Quand je les écoute, là, à l'émission de Radio Libre et qu'ils me disent, ouais, mais ça, ça commence à vendre 10 000, j'ai vendu 10 000 à Autobac, à Feu Vert, à Noroto, je me dis, attends, mais Autobac, Feu Vert, Noroto, ils vont pas savoir bien renseigner les clients. Viens, j'ouvre un petit magasin. Et c'est à l'époque où...
Juste distributeur, pas du tout dans la conception.
Revendeur, ouais. Juste revendeur. Et c'est à l'époque, c'est encore bizarre, on n'en a pas parlé avant, mais c'est à l'époque où je cherche un magasin, mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai 18 ans, j'ai pas d'argent. Comment tu veux? Alors, les revenus SACEM commençaient à tomber, mais c'était le début.
Et t'envisageais pas le web à l'époque, c'était trop tôt?
Bah ouais, c'était trop tôt. J'ai fait un site web en 2006, pas en 2004. Là, t'es en 2004, tu vois. Et donc, du coup, ce côté 2004... Bah du coup, tu t'es en mode, ok, qui je connais qui est dans le business? Et là, je tombe sur le papa de quelqu'un qui était avec moi à l'école, qui est un des top 5 de la pègre parisienne, qui possède tous les locaux à Pigalle. Et donc, du coup, il me loue un petit magasin, boulevard de Clichy, avant la place Pigalle. Et donc, du coup, bah, de ce petit magasin, je mets 10 000 balles de travaux. Et je me mets le matin à 10 h et je repars le soir à 22 h. Et il y a marqué, en gros, l'enseigne anti-radar. Il y a deux radars énormes fixes, parce que Sarko, c'est l'époque où il en met plein.
Avec les bandes jaunes et noires.
Exactement, tu vois, les boîtes grises, là. Donc, il y a deux radars que je fais faire en bois, avec des flashs qui flashent. Je me les fais enlever par la mairie de Paris en l'espace de 3 jours. Et ensuite, bah, ce petit magasin, je deviens le petit gars bien élevé qui te renseigne, toi qui bombarde, pour installer un avertisseur de radar dans ta voiture. Et en plus, je commence à aller sur les forums, dans les rassemblements Porsche, etc. Et donc, je vends de plus en plus. Ce qui fait que, tu vois, 2 ans et demi plus tard, j'ai 3 magasins, je fais 1,5 million de chiffre d'affaires et 300 000 euros de résultats avec une dizaine de salariés. Et c'est là où je commence à créer un website. Et c'est de là que je rencontre Fabien Pierlot après.
Fabien Pierlot qui avait déjà démarré Coyote à ce moment-là.
Ouais, alors,
Donc Fabien, c'était le fondateur de Coyote.
Ouais,
Coyote.
L'inventeur et le fondateur de Coyote. Okay. Et je lui dois beaucoup et je le remercie. Je le vois rentrer un jour dans ma boutique. J'ai encore cette image, j'en ai jamais reparlé avec lui. Il rentre et il dit, ouais, de toute façon, moi, je vais te prendre la vitrine de gauche, la vitrine de là et la vitrine de là. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il...
Allez, sortez.
Ouais, voilà, c'est ça, presque. Et en fait, de fil en aiguille, on avait les mêmes valeurs, on avait la même envie, à peu près les mêmes idées. C'est un mec malin, pareil.
Ça ressemblait à quoi, Coyote, à ce moment-là ? Ça existait déjà ou...
Ouais, ça existait, mais tu vois, il sortait son proto. Donc moi, j'ai distribué, en fait, ses premiers Coyotes. Et bah, ça ressemblait à quoi ? Ils étaient 5, je crois. Il avait un peu d'argent, il avait mis un peu d'argent et était allé chercher 300 000 euros à la banque. Et il commençait à produire ses petits Coyotes. Alors, il avait trouvé Jean-Marc Van Lethem, qui était le technicien pour coupler GSM et GPS et avertir la police en temps réel à tous les autres derrière. Et du coup, bah, cette techno, c'est le premier objet connecté que tu mets dans ta bagnole, quoi.
C'est clair.
Avant le téléphone.
Et là, du coup, on est en quelle année ?
Bah, t'es en 2006.
6.
Ouais, t'es en 6.
Vous décidez de vous associer ?
Non, c'est en 7 qu'on a décidé de s'associer. Et là, donc, on s'associe. Je rentre actionnaire du groupe Coyote. Et du coup, bah, je m'éclate. Au début, je fais beaucoup de business. Donc, je gère le retail. On ouvre des magasins dans les centres commerciaux. On distribue à Darty, Feuvert, Noroto, etc.
Là, il y a une marque, pour le coup, une marque hyper attachante, hyper...
Ouais.
Alors, qui n'a pas démarré tout de suite.
Ah non, ça, on a galéré un peu.
Une référence,
bah, impressionnante. Ouais, c'est ouf. Hein. Tu vois, c'est ce qui est paradoxal dans mon aventure Coyote, c'est que c'est une marque forte et tout le monde connaît en France, mais en France, tu vois, et allez, en Belgique. Mais on n'a jamais réussi, et pourtant on a investi, hein, j'y suis allé. Hein,
et donc... ils ont le même sujet de radar, ils ont le même sujet de...
Ouais, mais pas les mêmes réactions. Okay. Nous, les Français, on a un peu la rage contre
ça. On va y passer le truc.
Exactement. Alors qu'un Espagnol, bon, ils savent où ils sont, et c'est pas très grave, il y a un peu plus de tolérance. Un Italien, ça bombarde à 160 partout, donc il n'y a pas de sujet, les tutore, on sait où ils sont, tu vois. Les États-Unis, il y a les détecteurs, et c'est légal, donc ça sert à rien, ton petit avertisseur de merde, tu vois un peu.
En Suisse, en revanche, tu t'amuses pas à
mettre
un truc comme ça, parce que tu te fais...
Notre truc était illégal.
Ouais, ouais, clairement.
Donc en fait, plein de choses.
C'était très français. Bon, ouais. Malgré tout, vous avez quand même pris une belle part de marché, je sais pas si vous avez des gros concurrents, mais vous étiez...
Il y en avait un peu, mais non, il y en avait... Enfin, au début, mais on les a pliés avec la mise à jour automatique et la carte SIM et l'abonnement. Et l'abonnement, tout le monde nous disait non, 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 au début c'est nul, encore un abonnement.
C'était la clé du truc.
Alors que c'était la clé du truc, c'était un business model, mais enfin, ça allait toujours, hein, et bravo hein, d'avoir créé ça, parce que c'est un truc de malade. Après, ce que je me suis dit de fil en aiguille, c'est oulala, ça commence à beaucoup marcher quand même. Ça, c'est genre la police, ils ont dû avoir une chute assez impressionnante d'amende.
De retour, ouais,
et on a ce qu'on attendait, on a été interdit. Quoi. En 2011, ils ont dit non, ouais, arrêtez. Au moins, nous insultez plus, n'appelez pas ça un radar. Mettez pas l'endroit précis et essayez d'être un peu des assistants d'aide à la conduite, quoi, tu vois, c'est pas des détecteurs de radar.
C'est le même sujet, mais présenté de manière différente.
Ouais, c'est ça, et puis, bah, en fait, ça faisait vraiment, on vous fait un bras, enfin, on fait un doigt d'honneur, en mode,
ça
on freine
pas
devant.
Ça pouvait pas durer très longtemps.
Ben non. Et on les voyait, en plus, nous, on se marrait de temps en temps, parce qu'avec Fabien, on aime bien quand même rouler vite, et quand on voyait des moyennes, je me rappelle, Sébastien Lafont, qui me remontait, dédicace à lui, les moyennes, à des portions de route, et moi, mon objectif, c'était avoir les records. Et donc, du coup, à des endroits, t'avais, bah, sur le départ de la 10, là...
Parce que tu pouvais traquer les records.
Ah ben on traquait à combien passaient les bagnoles. On ne savait pas qui c'était derrière, mais on savait à combien ça passait. Et je me rappelle avoir vu 341 km/h au début de la 10. Et je m'étais dit, putain, mais il y a des mecs qui bombardent quand même. Et c'était assez marrant et passionnant tout ce truc, parce que c'était vraiment comment gérer une communauté, comment la faire payer et comment rajouter du service dessus, parce qu'on était quand même monoproduit, tu vois. Monoproduit, mono use case. Donc à l'époque.
Toi, tu avais quel rôle ?
Bah, au début, je gérais le business et donc j'étais patron du business. Et de fil en aiguille, j'ai géré plutôt les opérations en transverse parce que la R&D m'intéressait beaucoup à l'époque. Et Fabien, il n'aime pas prendre l'avion. Du coup, j'allais en Chine pour regarder comment se passait notre production,
Shenzhen,
etc. À Shenzhen, ouais, exactement. Et on allait visiter les usines, faire le contrôle qualité, voir les nouveaux produits, parce qu'on achetait des PCB de smartphones, parce qu'il y avait tout à l'intérieur, un écran, un GSM, un GPS, etc. Et on faisait notre casing autour, donc on faisait là-bas et l'achat du PCB, et on formait le PCB, et derrière, on faisait l'injection de plastique. Et on faisait expédier ça après en France.